poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
C'était il y a 30 ans, 3 mois, d'avril à juillet 1994, et presque 1 million de morts. Elle écrit « Il n'y a pas un jour qui passe sans que ce printemps de cendres et de sang fasse irruption dans notre esprit ou mette notre sommeil en charpie. » Beata Oumoumbieyi-Mires, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
Peut-être pourrions-nous commencer par un poème.
Tu tiens le bon bout, je t'emboîte le pas, au pas, c'est par là. Nos racines mises bout à bout, au bout de l'enfouissement, écosser les songes sous la lune. Sur cette rive, nos vies secondaires s'accrochent, étrangères, obstinées. Amarres usées jusqu'à la corde, nos cœurs en nous brûleront jusqu'à ce que notre histoire soit par nous racontée. Mais pas n'importe comment.
Merci. Vous êtes née au Rwanda, avez survécu au génocide des Tutsis, exfiltré in extremis, j'allais dire presque clandestinement avec votre mère par Terre des Hommes, une ONG suisse. C'était en juin 1994, vous aviez 15 ans. Depuis, il y a eu des nouvelles, il y a eu des romans, Tous tes enfants dispersés, consolés, un récit, Le Convoi, tout juste paru chez Flammarion, mais aussi des poèmes, un recueil, Après le progrès, ça c'était en 2019, auquel vous ajoutez aujourd'hui, Culbuter le malheur aux éditions Mémoire d'Encrier. Tous font œuvre de mémoire et écrivent petit à petit une communauté de survivants, de survivantes. Tous veulent se réapproprier cette histoire de laquelle dites-vous, à force de l'entendre raconter par d'autres, vous vous êtes parfois, souvent, senti dépossédé. Jusqu'à ce que notre histoire soit par nous racontée, mais pas n'importe comment. Il faudrait y ajouter, j'imagine, pas par n'importe qui.
Je ne sais pas si... Il y a des gens qui seraient plus légitimes pour en parler. En tout cas, c'est pas mon propos. C'est pas de dire que seules les survivantes et les survivants peuvent en parler. Par contre, ce qui importe pour moi, c'est que chacun, chacune dise d'où il ou elle parle. Et il me semble que la voix des rescapés doit être centrale et qu'elle ne peut pas être la même que celle, par exemple, des reporters, des historiens, des historiennes, dans la mesure aussi où nous parlons et nous écrivons aussi depuis notre langue maternelle. Et en général, cette langue-là, les autres ne la connaissent pas. Et c'est une langue qui porte beaucoup de poésie, même si face à un génocide, comme je l'écrivais dans une de mes nouvelles, les maximes éternelles peinent à dire. Et ces phrases, ces images qu'on avait depuis toujours pour dire le monde peuvent se retrouver heurtées par la réalité que nous avons eue à traverser.
Chez vous, par où ou par quoi a commencé l'écriture ou quels ont été vos premiers gestes d'écriture?
Quand j'y repense, même si ce que j'ai publié en premier était des nouvelles, il s'est agi d'abord de poésie. Il s'est agi de textes courts qui surgissaient un peu comme parfois, et je pense que c'est aussi le propre et de la mémoire quand elle est douloureuse, c'est-à-dire le traumatisme, c'était des textes qui surgissaient, qui s'imposaient à moi comme ça, très courts finalement, comme une façon de capturer ce que je vivais, ce que je ressentais dans une journée apparemment normale. Et puis ces textes, je les griffonnais dans des carnets et ce n'est qu'après avoir publié mes deux recueils de poésie que je me suis mise à les réunir, à les rassembler. Et c'est ce qui a donné le premier recueil après Le Progrès, oui.
Est-ce que la question de la langue d'écriture s'est posée pour vous?
Non, parce que le français est la langue dans laquelle j'ai appris à lire et à écrire. Donc, dès l'enfance, finalement, c'était la langue de la littérature. Et que le Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, c'est une langue qui est restée pour moi une langue du quotidien. Je ne l'ai pas apprise à l'école. Je ne suis pas en mesure, par exemple, je ne serais pas en mesure d'écrire de la poésie en Kinyarwanda, alors que la poésie est vraiment l'art le plus poussé au Rwanda depuis des siècles.
Ce sont deux langues qui se parlent entre elles?
Ce sont deux langues qui cohabitent, qui parfois dansent entre elles. En tout cas, je sais que le Kinyarwanda, ce qu'il porte en termes d'images très fortes, comme je parlais des maximes, des proverbes, même quand en cherchant à traduire un mot en Kinyarwanda, c'est tout un univers qui s'ouvre et que je peux ensuite explorer avec le français et raconter avec le français.
C'est dans la poésie qu'on l'entend le mieux ?
Je suis pas sûre, je pense qu'on l'entend partout. Peut-être moins dans le texte qui est le moins littéraire, je dirais encore le récit que j'ai publié en janvier, mais aussi bien dans les romans que dans la poésie, oui, on peut la retrouver, cette langue-là. Et j'aime à croire que le français, à son tour, colore différemment mon Kinyarwanda.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand j'ai déployé un mot de Kinyarwanda, c'est-à-dire par exemple le mot Ejo, qui est le même mot pour dire hier et demain. Il m'a fallu presque tout un livre pour déployer ce que ça voulait dire, avoir le même mot pour dire hier et demain et quel est notre rapport à la temporalité. Je reviens ensuite au Kinyarwanda et quand je le dis, il n'a plus le même sens. C'est-à-dire que je l'ai vraiment habité pleinement, je l'ai partagé et avec le français je peux le partager et il a presque plus de valeur pour moi, même quand je le prononce dans une conversation quotidienne.
Vous dites que c'est la poésie qui est venue en premier, mais en tout cas, c'est par la fiction que vous avez commencé à vous faire entendre, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui a retardé le récit ? Ça, c'est pour le convoi. Et même la publication de la poésie. Pourquoi est-ce qu'il fallait en passer par là ?
Parce que il y avait une question de me protéger moi et de protéger le lecteur et la lectrice. Parce qu'il y avait une expérience presque d'incommunicabilité, à la fois l'impression que ce que je pouvais avoir à dire n'était pas entendable, et la conscience aussi que si ce que j'avais à dire n'était pas entendu, ça serait une sorte de deuxième violence que j'aurais à traverser. Et donc, mon avancée dans l'écriture presque s'est fait à mots comptés, à pas mesurer, petit à petit, pour arriver à me faire entendre. Et la poésie, même si elle était là depuis le début, finalement, comme c'était ce qu'il y avait de plus intime, et ça reste ce qu'il y a de plus intime, eh bien, elle se glisse presque dans les interstices d'une adresse un peu plus formelle.
Il y a quelques poèmes dans Culbuter le malheur qui reviennent sur l'injonction à témoigner. Je pense aux nombreux entretiens que vous avez pu donner à la télévision, à la radio ou dans la presse papier. Vous écrivez « L'explosion exotique de ténèbres importées. Je ne pensais pas devoir ainsi exposer mes vestiges, mais elle veut m'entendre répéter encore et encore, refaire la même première fois. » Racontez tout de votre corps recousu, ouvrez-moi votre ventre horriblement fascinant, mais faites vite, car nous avons peu de temps. Âme sensible, offrez-vous une pause, boisson chocolatée, camomille, eau équitable. Bon, je ne sais pas si on y reconnaît une matinale à la radio, peut-être. Il y a ceux qui écoutent, dites-vous, la main sur le cœur, l'œil sur la montre. Racontez pas n'importe comment, pas par n'importe qui et pas un n'importe qui, c'est toujours la question d'où on parle et à qui on parle. Comment faudrait-il vous écouter, vous qui parlez de désert d'oreille, hein.
Il faut écouter en se disant que, comme disait l'autre, je ne sais plus son nom exactement, c'est notre besoin de consolation
est impossible à rassasier.
Il faut nous écouter en se disant que tout le monde n'est pas en capacité d'offrir un récit linéaire précalibré, qui va d'un point A à un point C en passant par un point B. Et laisser la possibilité aussi au silence. Apprendre à écouter les silences. Donc c'est peut-être une attente qui est immense, mais quand on ne sait pas qu'il y a cette attente-là, on ne peut pas essayer de la rencontrer. Donc j'écris tout cela aussi pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un de parler, qu'il faut aussi se poser la question de comment on va lui offrir un espace pour cette parole et presque déjà aussi envisager ce que l'on va faire de cette parole. Et on est à une période où il y a une sorte de presque facilité à dire « allez-y, parlez, on vous écoute ». Mais sans qu'il n'y ait eu de réflexion sur quand j'écoute quelqu'un, quand je propose à quelqu'un de parler, qu'est-ce que je vais faire de cette parole et comment je vais la respecter, puisque une parole offerte, c'est comme un cadeau. Et on peut offrir quelque chose en retour qui soit à la mesure de ce qui nous est offert.
La place du témoin, la place de l'écrivaine, alors je ne sais pas si ce sont deux places qui luttent entre elles, chez vous, je ne sais pas comment s'articulent ces deux places-là, ou si c'est quelque chose qu'il faut résoudre, vous qui parlez de vie réconciliée, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue entre ces deux places-là, pour vous, entre la place du témoin et celle de l'écrivaine, ou de la poétesse?
Mais je pense que les deux sont liées. Mais je m'autoriserai aussi, et je m'autorise parfois aussi, à être juste écrivaine.
C'est possible ?
Oui. Oui, c'est indispensable finalement. Parce que c'est trop lourd à porter de n'être que témoin, et d'être constamment témoin. Survivre, c'est pouvoir aussi survivre à la survie. Et ne pas rester enfermée dans cette seule... identité.
Qu'est-ce que la poésie permet que le récit ou le roman, même des débuts, ne permettait pas ? Est-ce qu'il y a une forme de radicalité permise par la poésie ou une façon de mieux préciser ou le recours à des mots en particulier qui ne trouvent pas leur place ailleurs ?
Je pense que la poésie permet une plus grande liberté parce que justement, il n'y a pas à justifier ce que l'on dit. On peut juste le poser là. On peut le mettre dans un ordre qu'on n'a pas à calibrer. Et on peut être aussi plein de choses. En tout cas, moi, dans ce recueil, justement, je ne suis pas que la témoin. Je suis une mère, je suis une femme, je suis une féministe, je suis une amoureuse, je suis une femme en colère ou une femme... prise dans un grand chagrin, je peux être toutes ces choses-là sans avoir à m'en justifier. Et c'est une immense liberté que je ne trouve pas ailleurs pour le moment.
Est-ce que vous voulez bien nous lire un autre de ces poèmes, Beata Wumbiei ?
Notre amitié ancienne comète a mis fin à mes ténèbres. La nuit s'est teintée de tendresse colorée. J'ai cessé de traverser les déserts d'oreilles. C'est une heureuse surprise au firmament, une nouvelle légèreté à l'horizon. Il nous aura fallu 30 ans pour composer cette chanson, de nos voix qui savent désormais apaiser l'incommensurable brouhaha des morts. Sur quelques rives que l'on ait accosté, sa mélodie monde saura raconter notre épopée d'enfants échoués. De rive en rive, de rage en rage, nous sommes les pièces réarrimées d'un récit immense et généreux. Dans les remous de ce long voyage, nous apprenons à culbuter le malheur.
Qu'est-ce que c'est, culbuter le malheur ? C'est le poème ?
Culbuter le malheur, c'est une très belle formule que j'ai trouvée dans un poème de Georges Castéra, qui était un poète haïtien. Et il disait, alors c'était en créole, moi je le dis dans la traduction française, tu me demandes, mon amour, ce qu'est la poésie. Ce sont des paroles semées pour culbuter le malheur. Et je trouvais que c'était exactement ce que j'essayais de faire avec les mots, avec la poésie.
Qu'est-ce que le temps et avec lui, le temps de l'écriture, ont fait à votre mémoire ?
Il y a souvent une image qui revient dans mes textes, qui est celle de rapiécer, de repriser. J'ai l'impression que ma mémoire est pleine de trous, est pleine d'incertitudes, est pleine de béances parfois. Et en cherchant à mettre des mots sur des choses qui sont floues, sur ces trous, j'ai vraiment l'impression de faire un ouvrage de... Oui, presque de couture comme ça. Et puis, il s'agit aussi de... Parfois même de rapiécer des rêves, quoi. De ne pas laisser ce qui pourrait être une grande misère, une grande solitude, tout emporter.
Est-ce que votre écriture comme ça, toute rapiécée, justement, ou trouée. Est-ce qu'elle s'en est trouvée changée après l'écriture de ce récit, de cette enquête qui s'appelle Le Convoi, qui est paru il y a quelques semaines, hein, quelques mois, qui est le premier récit auquel vous pour lequel vous parlez au jeu, et qui est véritablement une enquête aussi où il est question justement de rapiécer cette mémoire, enquête notamment d'une image manquante. Culbuter le malheur a été écrit à peu près dans le même temps, dans l'enquête. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que d'avoir écrit ce récit-là, particulier, différent de tous les autres, est-ce qu'il est venu rapiécer quelque chose, et est-ce qu'il est venu s'inviter dans votre écriture de la poésie ?
Ces deux textes ont été écrits, effectivement, presque en même temps, mais j'ai l'impression qu'ils se complètent plus qu'ils ne s'influencent l'un l'autre. Et autant j'ai l'impression que ce que j'ai pu faire dans Le Convoi, je ne suis pas prête d'y retourner, parce que ça a été c'est un texte qui impliquait beaucoup d'autres personnes et me demandait une sorte de rigueur, d'éthique extrême. Autant je sais que la poésie, elle reste comme ça, comme une sorte de bâton du quotidien et me permet de continuer à confier mes chagrins autres.
Parce que les poèmes disent... alors, peut-être que j'en ai manqué un ou deux, mais les poèmes disent « nous », les poèmes disent « elle », hein, au pluriel, souvent, disent « tu », beaucoup de poèmes d'adresse, hein, pas si c'est parfois à vous-même, je suppose aussi, « jamais » ou « presque »,« je ». Vous diriez que votre histoire vous a imposé cette identité collective, qui serait l'identité de la survivante ?
Sans doute, oui. Et peut-être parce que je n'ose pas encore complètement dire je. Je l'ai dit dans Le Convoi. Et ça m'a... je pense que je viens aussi d'une culture où on existe en tant que partie du collectif, oui. Et il y a... Pour moi, il y a parfois presque une certaine... En tout cas, c'est l'impression que j'ai, une certaine indécence à dire je. Parfois, je suis, j'essaie d'être dans le nous, mais j'ai aussi une histoire personnelle qui m'a souvent enfermée dans un jeu dont je voulais m'échapper.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Et aujourd'hui, à la technique, Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation, Laurence Millet, avec la collaboration de Virginie Leduo, et avec nous, Beata Oumoubiei-Mérès, qui signe « Culbuter le malheur » aux éditions Mémoire d'Encrier, double recueil de poèmes, 2024-2019, ou comment reprendre la main sur l'histoire du génocide contre les Tutsis, comment faire œuvre de mémoire, œuvre de transmission, et vous avez voulu nous faire entendre ceci.
No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Palabras para Julia, mot à Julia, pardon pour mon espagnol, célèbre poème de Goethe solo, mis en musique par Paco Ibáñez, un poème écrit en 65 qui s'adresse à sa fille. mais qui parle aussi de sa mère, qui portait le même prénom et qui a été tuée dans un attentat à la bombe en 1938 à Barcelone. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire entendre ?
C'est une chanson qui m'accompagne depuis de très très nombreuses années et qui dit à la fois ces paroles d'encouragement pour avancer dans la vie finalement, qui prévient sa fille que souvent elle se sentira perdue et seule et qu'elle elle regrettera même d'être née et n'aura plus envie de continuer. Et en même temps, il lui dit continue d'avancer et pense que tu peux aider d'autres aussi en avançant. Et c'est presque c'est presque comme le programme que j'aurais aimé qu'on me... Enfin, en tout cas, c'est un poème que j'aurais aimé des paroles qu'on me donne quand j'étais une petite fille, oui. Et finalement, la vie me l'a apporté différemment et je l'écoute très très souvent, oui.
Vous dites écrire pour les enfants du jour d'après, pour les vôtres aussi.
Oui.
Comment est-ce que mémoire et transmission s'articulent ?
Ouais, c'est comme s'il fallait passer au tamis finalement et enlever toutes les grosses pierres tranchantes et ne passer que de la poussière douce et colorée à ses enfants, mais tout en leur montrant ce que c'est que cet ouvrage de tamissage justement. Enfin, on parlait de reprisage. Enfin, il y a l'idée que il faut les protéger. Enfin, dans un des poèmes, je dis nos enfants, il faut les protéger et puis et en même temps leur dire la vérité, leur expliquer qu'est-ce que c'est que ces photos qui sont là, qui sont pleines d'absence et d'absents. Et pour moi, la mémoire devient problématique quand elle reste emprisonnée et qu'elle ne rencontre pas les mots pour la transmettre. C'est là que l'on se perd.
Vous citez volontiers Toni Morrison lorsqu'elle dit « S'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne le trouves pas, écris-le ». Il s'agissait aussi d'écrire ce que vous vouliez que vos enfants lisent.
Oui, ce que moi j'avais envie d'avoir en ma possession pour l'offrir à d'autres. Et parfois quand on est dans une adresse, et c'est vrai que je viens aussi d'une culture de l'oralité, on est dans la seule oralité, on peut parler à un moment donné à quelqu'un qui ce jour-là ne peut pas entendre, mais avec l'écriture j'ai l'impression de pouvoir à la fois mesurer chaque mot et le poser là, et en me disant que même si le jour où je l'ai offert il n'était pas acceptable, recevable, il sera là pour plus tard. Et mes enfants, qui l'aîné à 15 ans, commencent à lire mes textes. Chaque fois, je le rassure en lui disant tu n'es pas obligé de le lire maintenant, et si tu ne le comprends pas maintenant, c'est pas du tout un problème. Le texte reste là, et à mesure, tu le comprendras différemment.
À propos de comprendre, justement, pour nommer les choses, vous avez commencé par chercher d'autres voies, d'ailleurs pas forcément du côté des voies des témoins du génocide des Tutsis, les voies lues. Alors je pense en particulier à celles qui sont présentes dans « Culbuter le malheur », ce sont Charlotte Delbault, Anna Arendt. Après, dans le convoi, il y en a plein d'autres. Il y a Rétipan, Pane, il y a Primo Levi.
Audre Lorde.
Oui, alors, ça c'est aussi autre chose. Oui, bien sûr, il y a Audre Lorde aussi. On va en parler. Quelles sont les questions que ces lectures-là vous ont posées ? Qu'est-ce que vous êtes allé y chercher que vous ne trouviez pas ailleurs ?
L'idée que... Les mots que je peux poser aujourd'hui, il m'a fallu les chercher aussi pendant longtemps pour trouver les mots justes. Et que pendant ces longues années de recherche et de silence aussi, ou peut-être de silenciation, j'ai rencontré les textes de ces femmes, notamment. Et à des dizaines d'années d'écart, j'avais l'impression qu'elles me parlaient de moi et d'ici et maintenant. Et donc c'est une sorte de solitude rompue où... Cette expression de solidarité des ébranlés, en fait. Je rencontrais un tas d'autres ébranlés aux quatre coins du monde, dont les paroles me consolaient, me faisaient me sentir moins seule.
Alors, bah, peut-être que vous pourriez nous faire lecture avant de conclure, à propos justement de toutes ces voix de femmes sur votre épaule, sur vos épaules.
Sois discrète, tu ne devrais pas être là. Laisse les regards te traverser. Deviens insensible aux mots sournois. Tu es la fille, n'oublie jamais. Évanouis-toi quand on te scrute. Envole-toi en fumée, disparais. Fonds-toi au milieu de la foule, laisse-la t'avaler. Si elle te cache, qu'elle te hait, cache-lui donc que tu le sais. Croise tes jambes, croise tes bras, baisse d'un ton, ferme ta bouche, ne laisse pas traîner tes ongles, tes cheveux, ton odeur, brûle tout. N'as-tu pas honte? Ne sois pas effronté. Là, il n'y a rien, n'y touche pas. Agenouille tes yeux, sois sage. Lis autant que tu voudras dans la pénombre, mais ne va rien t'imaginer. Tout doit rester entre nous, à l'intérieur. Sois poli, ne pose pas de questions. Sois gentil, ne tente pas d'être jolie. Tiens ton bras, courbe-toi quand tu salues. Ton cou, ton nez, tes jambes, habille-les. Reste derrière. Devant, on ne verrait que toi. Ne chante pas, tu te ferais repérer. On ne voit que moi. L'ombre de ma peau fait trop de bruit. Et tu as dit que je chantais faux. Article 1, tais-toi. Article 2, tais-toi. Article 3, tais-toi. Article 4, un jour je dirai de la poésie. Un jour, le soleil avalera la nuit.
Merci beaucoup. Vous dites aussi, si je suis là aujourd'hui, c'est le fruit de la lune et du travail des femmes. Dans ce « nous », il y a cette affirmation-là aussi, d'abord.
Bien sûr. Et c'est vraiment dans cette sororité-là et dans la prise de conscience de ce qu'était cette violence que l'on vivait collectivement en tant que femme, que l'on a pu vivre aussi pendant le génocide contre les Tutsis, mais dans l'affirmation aussi d'une solidarité et d'un nous qui enfin se relève, que je vais puiser aussi beaucoup de force. Et les mots de ces femmes-là me sont utiles comme l'air que l'on respire.
Culbuté, le malheur, a paru aux éditions Mémoires d'Encrier. Et je rappelle la parution presque simultanée de votre récit, Le Convoi, aux éditions Flammarion. Beata Oumoubié-Imérès, merci infiniment d'être venue nous en parler. Poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix l'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes. Et à tous.